chacun a pu voir surgir ces temps derniers, et même les voir encore ce matin en venant ici, des affiches avec de beaux portraits. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que cela concerne aujourd'hui notre devoir, notre obligation de citoyen. Nous sommes depuis bien longtemps, trop longtemps à mon goût, en campagne électorale, et il est grand temps que ça cesse. Nous sommes envahis par les interventions des médias, de slogans, de meetings, d'affichages de toutes sortes, de promesses que chacun sait qu'elles ne seront pas tenues, qu'elles ne peuvent d'ailleurs être tenues, d'invectives à l'égard de tel ou tel autre, de coups bas, de démagogie, d'hypocrisie, et j'en passe. Et cette cacophonie dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous baignons, empoisonne notre existence, nous sépare d'amis, de parents peut-être, nous impose aussi d'âpres discussions. Et pourtant, tout à l'heure, si ce n'est déjà fait, il faudra bien introduire notre bulletin dans l'urne. Et alors, comment les chrétiens que nous sommes, devant un tel déchaînement d'idées, de propositions, de promesses, vont-ils faire leur choix? J'imagine que certains déjà se posent la question de savoir ce que je vais raconter. Alors rassurez-vous, il n'est pas question pour moi ce matin d'utiliser cette chaire comme une tribune politique, ni de vous orienter vers le bon ou le mauvais choix. D'ailleurs, je serais bien incapable de le faire. Mais bien plutôt de réfléchir avec vous quelques instants sur l'esprit dans lequel voter. Et j'ai ressorti un verset d'une des épîtres de Paul aux Philippiens, l'épître 2, le verset 5. Ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eus. Cette question que vous êtes certainement déjà posée, je ne peux faire autrement que de la poser ici, à mon tour. Aussi, pardonnez-moi par avance si je choque, ou si tout simplement vous vous attendiez à autre chose. Je laisserai volontairement de côté toutes les questions, pourtant essentielles, qui concernent la manière d'être du chrétien dans ces heures d'incertitude. J'irai droit à la question essentielle, à la question de l'attitude intérieure que doit prendre tout disciple fidèle en présence du choix qui nous est imposé aujourd'hui. Il y a en effet, dans le tourbillon auquel nous sommes soumis, bien autre chose qu'une vulgaire querelle de parti, qu'un banal conflit d'intérêts, qu'un possible changement d'orientation de notre société dont on pourrait bien, en y prêtant attention, faire abstraction pour continuer à vivre comme si de rien n'était, ce qui est prévisible d'ailleurs. Ce que je retiens personnellement de cette campagne, mais est-ce vraiment nouveau? Hormis les buts que sont l'évident besoin de pouvoir ou encore la volonté de faire gagner son camp, c'est cette espèce de climat malsain où domine l'intolérance. Donc, en l'occurrence, le manque d'amour, le mensonge, synonyme d'absence de sincérité. Et l'intérêt, par opposition au désintéressement. N'est-il pas évident que ceci ne serait pas aussi triomphant, aussi insolent, si les chrétiens avaient été depuis des siècles de meilleurs témoins de Jésus-Christ, du Christ, de justice et d'amour? avec tous ces éléments politiques, économiques, sociaux, nationaux, spirituels, avec son effroyable complexité, avec les répercussions de toutes sortes, qui ne peut manquer d'y avoir sur la vie matérielle et morale des hommes, quelle que soit la solution qui intervienne, le nouveau choix auquel nous avons à devoir faire s'impose de manière aiguë, de manière personnelle à l'esprit, au cœur, à la conscience de tous. Et très particulièrement à l'esprit, au cœur, à la conscience des chrétiens. Sans doute, ceux-ci sont-ils citoyens des cieux, et comme tels, moins ébranlés que d'autres par les soubresauts de la terre. Mais leur mission n'est-elle pas précisément de faire descendre sur la terre un peu au moins de cette vie céleste qu'ils ont le privilège de connaître. Leur maître ne leur a-t-il pas recommandé expressément d'être le sel de la terre et la lumière du monde? Et n'est-il pas certain que s'ils avaient mieux écouté cette recommandation, s'ils avaient plus efficacement réalisé la volonté de Dieu ici-bas, il y aurait ici-bas, à leur présence, moins de souffrance, moins d'incertitude, moins de troubles, moins d'inquiétude. À ceux de ce disciple qui, au nom de je ne sais quel idéalisme mystique, serait tenté de dire que le problème actuel du monde ne les concerne pas, parce qu'ils ne sont pas du monde, il me semble entendre le Seigneur déclarer avec une infinie tristesse, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé, puisque ce monde pour lequel je suis venu et pour lequel je suis mort souffre. Vous devez, vous mes amis, vous mes disciples, souffrir avec lui, chercher avec lui, en mon nom, la guérison de ses souffrances. Vous pourrez, ayant reçu ma vérité divine, dire à ce monde des choses qu'il n'entend de personne d'autre et qui sont capitales. Mais vous ne les direz efficacement que si vous sympathisez profondément avec lui, si vous êtes tourmenté de ce qu'il tourmente, si vous posez avec lui les grands problèmes. En vous abstenant, vous frustreriez gravement vos frères et vous me considéreriez auprès d'eux, vous me déconsidéreriez auprès d'eux, en allant à eux pour souffrir avec eux, pour chercher avec eux, vous me servirez et me glorifierez comme être glorifié et servi. Donc, au nom de notre Sauveur et en tant que chrétien, il nous faut nous placer résolument, courageusement, en présence des grands problèmes de l'heure. Est-ce à dire qu'il s'agisse de prendre, en tant que chrétien, une position politique déterminée, de choisir obligatoirement l'une des grandes tendances qui se partagent actuellement les esprits? Est-ce à dire qu'il y ait une solution chrétienne, unique et immédiate du grand débat, une solution que l'Église de Jésus-Christ est à patronner officiellement et tous les croyants à adopter docilement? Non. Toutes les fois que dans l'histoire la chrétienté a cédé à la tentation de se solidariser étroitement avec un système d'idées ou avec un parti politique, elle l'a payé très cher. Et ce n'est pas un hasard si la Bible elle-même, dans laquelle se reflètent des quantités d'organisations sociales différentes, n'en patronne exclusivement aucune. Mais la Bible ne met pas son autorité au service d'un système politique donné. Si elle ne milite pas en faveur d'une organisation sociale déterminée, elle nous offre quelque chose qui est en définitive bien plus grand et bien plus efficace. Elle nous propose, et si nous voulons être vraiment chrétiens, elle nous impose un certain esprit, une certaine manière de considérer les événements, les choses et les hommes, une certaine façon de peser et de traiter les grands problèmes, une certaine attitude profonde de l'âme en présence des questions capitales. Et pour savoir quel est cet esprit, quelle est cette attitude dont la Bible est toute remplie, nous n'avons cependant pas besoin de lire toute la Bible. Nous n'avons qu'à regarder celui qui est au centre de la Bible et à nous demander d'une manière à la fois intelligente et pourquoi pas candide ce qu'il ferait, ce qu'il dirait, ce qu'il penserait, ce qu'il voudrait s'il était mêlé à notre climat politique actuel. Ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eus, nous dit le verset des Philippiens. Voilà la manière chrétienne de poser et de résoudre les grands problèmes. Manière bien simple en vérité, mais manière aussi redoutable, je veux dire bien redoutable pour nos pauvres paresses et pour nos égoïsmes, car cela peut nous mener singulièrement loin de vouloir penser, sentir et agir comme le ferait Jésus. On pourrait s'arrêter ici, ayant la certitude d'avoir, avec les derniers mots prononcés, exprimé tout l'essentiel. Mais il est sûr que certains d'entre vous souhaitent que l'on aille peut-être plus loin, et que soient précisées quelques-unes des formes sous lesquelles doit se manifester aujourd'hui, de manière spéciale, cette volonté d'être fidèle à l'esprit et aux sentiments de Jésus. Efforçons-nous de répondre à ce vœu, en se souvenant que le Maître lui-même, en particulier dans le sermon sur la montagne, n'a pas craint de monnayer en quelque sorte son message d'ensemble, en donnant des exemples d'applications concrètes. Mais il faut qu'il soit bien entendu que tout ce qui peut être dit dans cet ordre d'idées est forcément incomplet, insuffisant et pauvre. La totalité, la réalité de l'esprit chrétien ne pouvant être saisie que dans le contact intime de l'âme, de l'esprit avec Jésus lui-même. Tout à l'heure, j'évoquais l'intolérance, j'évoquais le mensonge, j'évoquais l'intérêt. Alors, pas besoin de lire longuement Sous cette réserve, commençons par affirmer que le chrétien qui veut être conforme à son maître doit adopter, dans le concert politique actuel, un parti pris d'héroïque sincérité. Pas besoin de lire longuement le Nouveau Testament pour s'apercevoir que le regard que Jésus jetait sur le monde et avec lequel il a illuminé le monde pour l'éternité était un regard vrai. Et pas besoin de lire longuement les journaux d'aujourd'hui pour constater avec douleur que nous vivons dans une atmosphère constante de mensonges, de tromperies, d'hypocrisie, de démagogie. Au milieu de cette débauche de fausseté, le disciple de Jésus-Christ sera celui qui dit le vrai, et aussi celui qui recherche le vrai, celui qui n'admet pas qu'il y ait une vérité de classe, une vérité de parti, une vérité de nation, mais qu'il professe qu'il y ait la vérité tout court, et qu'il veut connaître cette vérité. Cela ne sera pas facile. Il devra se donner beaucoup de peine. Il devra résister à l'acceptation facile d'une vérité de seconde ou de troisième main. Il devra s'obliger à aller jusqu'aux sources. On lui en voudra souvent de son scepticisme. Il y aura des gens pour s'opposer et vouloir voir les choses autrement. Mais il persévérera quand même dans son effort, se rendant bien compte qu'un problème ne peut pas être résolu tant que les données ne sont pas sûres, se rendant également compte du service qu'il rendra à ceux-là même qui le critiqueront, en représentant au milieu d'eux les exigences indescriptibles de la vérité. Nous faisons-nous une idée du changement qui se produirait dans les divers groupements dont nous faisons partie le jour où, à force de sincérité, dans la parole et la pensée, nous aurons obtenu, sans nous fâcher, sans faire d'éclat, par la seule puissance de notre exemple, qu'on respecte la vérité. Autre second des trois qualificatifs que je donnais tout à l'heure, le désintéressement. D'une manière très générale, les opinions, les attitudes, les tendances des hommes sont en fonction de leurs intérêts. On ne l'avoue pas toujours quand il s'agit d'intérêts personnels, matériels. Mais on ne craint pas de l'afficher s'il s'agit d'intérêts de classe ou de nation. Ici, de nouveau, le chrétien se distinguera de la masse et s'affermira disciple déterminé de Jésus qui a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste sera donné par surcroît. » Cela non plus n'ira pas tout seul. D'abord, le chrétien est, comme tous les autres hommes, solidaire des groupements dont il fait partie. Et que les liens de solidarité ne sont pas ceux qu'on tranche facilement. Et ensuite, parce que les intérêts sont très habiles à se déguiser et à agir sur nous sans que nous nous en doutions, sans que nous nous en rendions compte, sous toute espèce de prétexte trompeur. Si nous cherchions bien dans la racine profonde de beaucoup de nos idées, même les plus nobles et les plus sages, nous trouverons qu'en fait, nous les avons choisies parce qu'elles sont en harmonie avec tel ou tel avantage, avec telle ou telle passion auquel nous tenons beaucoup, avec tel ou tel privilège. Il est même vraisemblable que nous ne nous débarrasserons jamais entièrement de cette pression redoutable exercée sur nous par nos intérêts, mais notre devoir sacré est de le combattre, et de la combattre de toutes nos forces et de toute notre pensée, afin que notre âme devienne tout de même davantage perméable au sentiment du bien commun, de la volonté suprême de Dieu. Dernier principe que j'évoquais tout à l'heure, la volonté d'amour. Ce qui fait l'exceptionnelle gravité de ce qui complique aussi terriblement l'aspect politique des élections en cours, c'est chez beaucoup l'existence d'une haine profonde contre les gens du parti opposé. Or, la haine, je ne dis pas, remarquez-le, la conviction passionnée, je ne dis pas l'indignation ardente, je dis la haine. Un chrétien doit la répudier de toute son âme, parce que celui qui hait a le regard obscurci, et parce que celui qui hait soufflette, offense, scandalise Jésus-Christ. Ici, de celui qui est mort par amour, nous résisterons donc de toutes nos forces à la contagion maudite. Nous ne détesterons personne, même nos adversaires les plus déterminés, même nos adversaires les moins honorables. Nous chercherons à comprendre cela même qui nous paraîtra le plus étonnant et le plus discutable, et nous contribuerons ainsi à créer autour de ce grand problème une atmosphère de détente, si possible de confiance, qui contribuera beaucoup à le rendre moins douloureux et moins difficile. Enfin, j'évoquais la tolérance, le respect des autres, le respect de l'homme. Même les penseurs les moins chrétiens reconnaissent que Jésus a rendu au monde un service unique en lui révélant la valeur infinie de l'âme humaine. Il s'ensuit que le chrétien qui voudra rester chrétien repoussera toute solution qui serait contraire à ce respect. Tout système qui maintient l'homme pratiquement en esclavage, que ce soit l'esclavage de la misère, l'esclavage par la domestication de la pensée, l'esclavage par l'argent, tout régime qui empêche l'homme d'être la créature libre et épanouie du Père Céleste, toute organisation qui écrase sous un joug quelconque la personnalité ne doit plier que devant Dieu, tout cela doit être dénoncé comme blasphématoire par le chrétien, et quelque parti qu'il soit. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les humanistes voient en tout homme l'homme. Le chrétien va plus loin. Il respecte en tout l'homme l'enfant de Dieu. Il respecte en tout homme l'enfant de Dieu. Qui peut mesurer ce que seront les conséquences de cette vision quand elle sera devenue réelle en nous? Tout homme enfant de Dieu. Il est enfin un dernier aspect de l'attitude chrétienne face au combat politique que nous vivons et sur lequel il faut dire un mot. Jésus, chaque matin, priait sur la montagne. Il priait pour ses disciples, pour la foule dont il avait pitié, pour le salut du monde en vue duquel il voulait donner sa vie. Faisons-nous comme lui. Oh, je sais que la situation actuelle a probablement eu sa part dans nos prières quotidiennes. Mais notre prière était-elle une intercession aimante pour le monde en travail, pour le monde en mouvement, pour le monde rempli d'inquiétude? N'était-ce pas plutôt la prière de la crainte, la prière qui demande l'exemption des souffrances et le triomphe de ce que l'on estime le plus avantageux? Dans les heures comme celles que nous traversons, la vraie prière, prière simple, prière humble, prière docile, prière qui ouvre l'âme aux inspirations d'en haut, soit fidèlement notre prière. Et alors on ne pourra plus dire que nous sommes des chrétiens passifs, puisque par notre prière passeront en nous toutes les énergies de Dieu. Et on ne pourra plus dire que non plus que nous sommes des chrétiens retardés, puisque par notre prière passeront en nous toutes les initiatives, toutes les poussées en avant de l'esprit. Un dernier mot. Quand nous aborderons les grands problèmes d'aujourd'hui avec l'esprit de sincérité, de désintéressement, d'amour, de respect, de prière, oui, et incontestablement l'esprit de Jésus-Christ, lui trouverons-nous une solution à laquelle nous pourrons donner notre cœur, peut-être, mais pas toujours. Quelques-uns, au bout de leurs efforts, de recherches fidèles concluront fermement dans tel ou tel sens. Ils adhéreront cordialement à tel ou tel parti et ils feront un travail utile s'ils y manifestent avec persévérance les sentiments que Jésus-Christ a eus. D'autres, au contraire, ayant aperçu de chaque côté du vrai et du faux, du bien et du mal, resteront écartelés, déchirés, crucifiés, non pas neutres, mais indépendants, donnant par conviction irrésistible tantôt raison aux uns, tantôt raison aux autres. Et à cause de cela, sans doute, seront haïs, suspectés par tous. Ceux-là souffriront plus, mais leur souffrance même sera utile au monde, qui les critiquera peut-être, mais qui ne pourra pas ne pas prendre garde à leur témoignage, s'ils ont réellement eu en eux les sentiments que Jésus-Christ a eus. Seigneur, nous ne savons pas où l'incertitude de ce jour nous mènera. Nous ne savons pas non plus où toi tu nous conduiras. Mais nous voulons que ce soit toi qui nous conduises, que ce soit toi notre meneur. Nous ne te demandons pas de nous délivrer de toute inquiétude. Nous ne te demandons pas de nous épargner tous les tourments plus qu'aux autres. Nous te demandons qu'une chose, c'est de nous donner, dans nos inquiétudes et nos tourments, de marcher selon ton esprit. Amen.